Alors, je voudrais qu'on aborde un livre particulier qui se trouve dans la Bible. Et je pense que s'il fallait, pour une cause quelconque, que je ne comprends pas, que j'imagine purement et simplement, supprimer des livres, ce livre-là, on ne pourrait pas le supprimer. C'est, à mon avis, le livre le plus important, parce qu'il contient toute la sagesse de Dieu et des hommes aussi. Parce que quand même, les hommes ne sont pas tout à fait quand même idiots. Lorsqu'ils sont en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce que dit Dieu aux hommes, et qu'ils le disent par amour, disons avec tendresse, qui propose la miséricorde, la grâce, le salut, qui fait des promesses, des alliances, ou qui parfois se met en colère, donc il prouve que Dieu est quelqu'un de vivant, eh bien, c'est dans ce livre-là. Et en contrepartie, eh bien, il y a aussi l'homme qui s'exprime auprès de Dieu. Alors, soit sur les circonstances, mais dans une vie, effectivement, il y en a des circonstances qui font que on peut changer. Soit il se plaint, il se lamente, il est malheureux, mais il demande un appel, il lance un appel au secours, ou au contraire, reconnaît la grandeur de Dieu, et c'est la louange, c'est la glorification, c'est, disons, effectivement, donc tout ce qu'il peut exprimer d'amour pour son Dieu. Et c'est un échange, alors qui se fait soit tendrement, soit d'une façon un peu plus forte, soit le tonnerre, soit la petite brise. Et c'est en fait, je vous avais certainement bien compris, que je veux parler du livre des psaumes. Alors ce livre de psaumes est très intéressant parce que je crois qu'il y a vraiment, si on y fait attention, que c'est un livre qui peut accompagner l'homme, effectivement, tous les jours. Non pas par superstition, mais pour en tirer, évidemment, un enseignement et qui doit, bien sûr, avoir une retombée sur sa relation avec Dieu et avec les autres. Mais ce n'est pas quand même parfois un livre très simple. On va le voir peut-être au fur et à mesure. On ne sait pas très bien qui s'adresse à qui. On passe du je au nous. Alors c'est parfois à titre individuel, parfois c'est collectif. C'est pas un livre quand même très simple. Alors, le livre des psaumes, j'ai essayé en gros, là, j'ai défraîchi un peu le travail. Moi, je préférais que vous donniez quand même, disons, une définition plus officielle. C'est une prière poétique en plus. Hein. Moi, je trouve que c'est beau. Hein. C'est souvent une dimension poétique hein, que possèdent tous ces psaumes. Alors, à vous, quelle est votre définition des psaumes, du livre des psaumes?
Le psaume, c'est un psalmodier, ça veut dire accompagner un poème liturgique ou un poème avec un instrument à cordes. Donc ça a un sens tout à fait précis. Et donc les psaumes sont ces chants accompagnés d'un instrument de musique à cordes. Et dans les psaumes, il y a quantité de choses différentes. Il y a des prières, il y a donc des demandes, il y a des remerciements, il y a des louanges, des adorations, il y a des colères, il y a des constats aussi, il y a des rappels historiques, il y a des éléments poétiques aussi. Mais par définition, le psaume, c'est quelque chose qui est chanté avec un instrument et il faut quand même souligner de manière assez précise, que le psaume était, au temps d'Israël, le chant de l'assemblée. Donc le psaume, c'est presque toujours quelque chose de collectif. Alors on pourrait dire, oui, mais quand David a composé ses premiers psaumes qui n'étaient pas encore roi, il en a fait quelque chose d'individuel, et peut-être qu'il avait son instrument de musique et qu'il chantait tout seul. Mais la portée des psaumes est une portée essentiellement collective, dans laquelle, par exemple, le chef des chantres, c'est-à-dire le chef de chœur, est quelqu'un qui va choisir avec soin des chants pour ses paroles, pour la musique, pour l'harmonie, pour tout un ensemble de choses, et parce qu'ils vont convenir à l'assemblée dans telle et telle circonstance. Par exemple,
C'est une liturgie.
c'est ça.
C'est adapté à un événement que l'on veut célébrer.
Par exemple, les psaumes 120 à 134 s'appellent le cantique des marches. Et donc, il y avait 15 marches qui menaient
Des degrés,
vers le
oui.
temple, les degrés, il y avait 15 marches d'escalier, en fait. Hein. Et donc, à chaque marche, ceux qui étaient sur les marches devaient chanter. Alors, il y avait un chant très court et qui correspond à une liturgie particulière.
Et qui est plein de joie.
Plein de joie.
Enfin, ils sont contents d'être là.
Oui.
On le voit, on l'entend.
On l'entend.
Hein. On l'entend, oui.
Ouais.
Et en fait, donc, ils sont très anciens, ces chants.
Alors, les auteurs des psaumes sont variés. On ne les connaît pas tous, les auteurs, mais on peut citer David, qui est l'auteur principal, hein, qui est l'auteur d'environ 73 psaumes. Je dis environ 73 parce que, en fait, comme il y en a quand même pas mal dont l'auteur n'est pas montré, on ne sait pas s'il n'en a pas fait d'autres. Il y a ces trois chefs de chantre, donc chefs de chœur, hein, il y avait trois chefs de chœur qui correspondaient aux trois familles des Lévites, hein, les Kéatites, les Mérarites et les Gershonites. Et donc, il y avait le premier chef de chœur, c'est les fils de Corée, on trouve ça au psaume 42, hein, qui sont des Kéatites. Le deuxième chef de chœur, c'est Asaph.
Mais c'est un fils de Corée aussi.
Asaph ?
Oui.
Non,
ah non,
non. Asaph, son premier psaume composé, c'est au psaume 50, et c'est un fils de Gershom.
Ah bon.
Et puis le troisième chef de chœur, c'est Étan, et on trouve Étan au psaume 89, et c'est un fils de Merari. Et donc, Étan ou Étam, hein, après, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, ces trois chefs de chœur ont donc chacun la même fonction, chef de chœur, mais c'est intéressant de voir que les fils de Corée ont fait 12 psaumes, Asaph a fait 12 psaumes, et puis, par contre, Étan n'en a fait qu'un.
Oui. Et alors, c'est une signification ?
Peut-être. Peut-être, mais je ne peux pas dire exactement quelle est cette signification. Peut-être que finalement, Étan avait été chargé peut-être par le roi, ou peut-être qu'il avait eu envie de faire un psaume, alors que Asaph en avait déjà 12 sous le coude, hein, c'est possible.
Oui, ou d'autres qui ont pu disparaître, peut-être.
D'autres qui ont pu disparaître, oui. Mmh. On peut imaginer beaucoup de choses. Alors, Moïse a fait le psaume 90.
Salomon aussi est intervenu dans la création de psaumes.
Voilà. Salomon a fait le psaume 127, hein, si l'Éternel ne bâtit la maison. Voilà, il y a peut-être encore d'autres auteurs que je n'ai pas en mémoire dans l'immédiat, mais voilà donc voilà pour les auteurs. Après, pour les recueils, c'est intéressant de voir, par exemple, que manifestement, il y a un recueil de psaumes des fils de Corée, et qui sont classés, par exemple, le recueil des fils de Corée et commence dans le deuxième livre, et on a du psaume 42 jusqu'au psaume 49, on a ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 psaumes qui sont des fils de Corée. Et puis après, il y a le psaume d'Asaph, le psaume 50,
oui,
qui figure dans le livre numéro 2. Mais après, dans le livre numéro 3, on trouve les psaumes d'Asaph, à partir du psaume 73 et jusqu'au psaume 83. Et après, on retrouve les psaumes des fils de Corée jusqu'au psaume 88. Mais ils sont quand même regroupés. Oui. Il me semble que là, on a une volonté de faire des recueils qui est manifeste, avec donc notamment pour les fils de Corée, pour Asaph, mais les psaumes de David ne sont pas regroupés. Au contraire, l'ensemble des 150 psaumes, ça c'est, j'aurais peut-être dû commencer par ça, hein, est divisé en 5 livres, et des livres dont il est difficile de dire qu'ils ont un message global très très défini. C'est sûr que le premier livre, hein, les 41 premiers psaumes, sont de David, et que on peut dire que c'est vraiment il est le seul auteur, donc le seul auteur exprimé. Et donc on peut dire qu'il y a une volonté de regrouper
auteur, mais pas par thème.
Par auteur et pas par thème, mais après, dans les livres 2, 3, 4, 5, les auteurs sont mélangés.
Ah oui, oui.
Là aussi, hein. Et donc, dans tout ce que j'ai pu lire, ou dans les psaumes que j'ai lus, je ne vois pas tellement comment on pourrait dire qu'il y a une volonté pédagogique globale, avec les livres, donc les cinq livres, avec les auteurs. Voilà. Mais par contre, chaque psaume a, on pourrait dire, pourrait avoir un titre particulier qui est assez explicite.
Oui, et disons que, est-on sûr des auteurs ? Quand on dit David, je prends David parce que c'est un nom qui vient facilement. Est-ce qu'on est sûr que c'est le roi David qui a écrit ces psaumes ? Est-ce que ce n'est pas des gens, des poètes, des prêtres qui vivaient dans son palais, qui les ont faits et qui l'ont adressé à leur roi ?
Ce qui est très parlant et frappant, c'est que l'expression hébreu le Daoud, la préposition le est une préposition d'attribution. Alors que nous, de, c'est une préposition qui montre l'origine.
Oui, oui.
Et donc, cette proposition d'attribution, par exemple, est traduite par ce qu'on appelle la Bible des Septante, hein, qui a été commandée par Ptolémée Philadelphe pour le Pentateuque, et puis ensuite donc, la Bible des Hébreux traduite en grec. Alors, en grec, on va mettre to, qui est le complément d'attribution.
Oui, oui, oui.
Donc, il va être clair dans la traduction que la plupart des psaumes de David ont été attribués, ont été donnés à David, sauf cinq. Il n'y en a que cinq desquels on va dire qu'ils viennent de David.
Ah, en grec. On peut voir quand même la différence.
Voilà. Alors, la grande question, c'est est-ce que les Grecs ont fait ça de manière objective, ou au contraire, est-ce qu'ils ont voulu brouiller les pistes ? Ça, on ne peut pas trop savoir. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, le Cantique des Cantiques, il est dit Cantique des Cantiques, le Shlomo. C'est-à-dire, en fait, qui est pour Salomon. Pas qui est de Salomon.
Oui, mais
la tradition l'a récupéré comme étant de Salomon.
Voilà. Oui, alors, mais oui, ça correspond un peu à ce que je pensais en disant c'est des gens qui ont écrit pour le roi, sans que le roi ait eu des capacités ou le temps.
C'est ça. Peut-être que le roi n'avait pas le temps, en fait, de constituer ses recueils, hein. Et enfin, qu'il avait ses nègres, hein, voilà, comme voilà, aujourd'hui.
Qui était peut-être déjà maigre.
Et qui composait pour lui à la fois les paroles et puis, et bien sûr, la musique et la compagnie.
Croyez-vous qu'il soit très important que les psaumes soient effectivement de David, de Salomon ou des fils de Corée ? Je crois que l'essentiel, c'est la portée.
Dans l'absolu, je dirais que oui et non. Alors, oui, parce que, par exemple, quand les fils de Corée écrivent leurs psaumes, et que dans le psaume 42, je lis un psaume triste. Psaume 42, par exemple, les fils de Corée, ce sont donc ils ont été établis parmi les Lévites comme chantres par David. Donc, au moment de David, il n'y a pas eu de grande défaite, ils n'ont pas été emmenés captifs, il n'y a pas de catastrophe sous David. Il y a certaines choses, et peut-être qu'ils parlent de ces catastrophes, mais ils écrivent, par exemple, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» Donc, ils ont envie de la fin. Et ils disent, je me souvenais de ces choses, je répandais mon âme au-dedans de moi, j'allais avec la foule, je m'avançais en leur compagnie, mais j'étais abattu. Et donc, on peut se dire, mais peut-être que les fils de Corée souffrent de ce que leur famille a vécu. Vous savez que les fils de Corée ont été, dans le livre des Nombres, chapitre 16, mis à mort parce qu'il y a eu une faille qui s'est ouverte sous leurs pieds, et ils ont été engloutis dans la terre à la suite de la convoitise de Corée et de d'autres personnes qui a fini par un jugement de Dieu. Et oui. Donc, peut-être que les fils de Corée ont été marqués par cela. Et c'est important pour nous de savoir que les fils de Corée ont écrit ce psaume. Ça nous permet de comprendre un peu le contexte. Mais, je vais dire non maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas le titre, les fils de Corée pour instruction. Et donc, on regarde, on dirait, ben voilà, l'auteur est abattu.
Est abattu.
L'auteur dit, mes larmes ont été mon pain jour et nuit. Quand on disait tout le jour, où est ton Dieu ? Donc, en fait, il y a des gens qui se moquent d'eux.
Oui, il y a une souffrance.
Il y a une souffrance. Mmh. Et c'est vrai que ne connaissant pas l'auteur, on peut tout à fait, par exemple, comprendre la souffrance et même plus peut-être comprendre cette souffrance comme étant la nôtre, c'est-à-dire s'approprier la souffrance. Je dirais que c'est plus facile de s'approprier la souffrance quand on ne connaît pas bien l'auteur que quand on le connaît bien. Parce que quand on le connaît bien, alors la lecture historique prend tellement de place qu'on a moins de facilité à faire une lecture personnelle adaptée.
Oui, mais je crois que l'intérêt justement des psaumes, c'est un peu d'oublier justement ce que vous venez de dire, le contexte historique, que l'on connaît, et le faire soi. Moi, je trouve que quand on lit les psaumes, on peut presque trouver un psaume pour chacune de nos situations dans laquelle
personnel.
Nous sommes. Hein, à la limite, ça pourrait se passer presque de psy. Hein. Alors, on trouve ce psaume qui nous convient.
Absolument. À propos de psy, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les 150 psaumes, il y en a 6 qui commencent par bienheureux.
Oui.
Et dans chaque psaume, il y a peut-être une source particulière du bonheur.
Oui.
Hein?
Oui, non, mais pour en revenir à là au psaume des fils de Corée, c'est très beau parce que, bon, à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a eu un exil quand même, eux ou leur famille, hein, parce qu'ils parlent lorsqu'ils étaient évidemment depuis loin du Jourdain, ils avaient quitté les rives, et ils s'en souviennent. Et puis, bon, pourquoi m'oublies-tu, Seigneur ? Donc, ils rappellent, il y a toujours une espérance.
Voilà, on ne sait pas exactement quelles sont ses conditions. Hein, il y a des adversaires, il y a des moqueurs, il y a une nation sans piété dans le psaume 43, par exemple, mais c'est difficile de savoir quelle est la circonstance exacte. Et d'ailleurs, dans la plupart des psaumes, c'est difficile de savoir quelle est la circonstance exacte. Mais il y en a quelques-uns qui ont des circonstances
mais c'est,
exactes.
C'est presque bien. Parce qu'on peut plus facilement l'adapter à une situation de l'homme d'aujourd'hui.
Absolument. C'est sûr.
Un malade, quelqu'un qui vient de perdre son emploi, qui vient d'être humilié dans son milieu de travail, qu'on a renvoyé, c'est comme un exilé, quoi.
Oui.
Donc, on peut toujours s'y retrouver. On peut toujours s'y retrouver. Parce qu'en fait, on a le choix. Il y a tout un catalogue. Hein. Il y a les hymnes, il y a qui peut être classé, disons, des supplications qui sont collectives, mais il y a aussi des supplications qui sont peut-être aussi privées, individuelles. Il y a les actions de grâce, il y a les louanges. Il y a tout, en fait, qui peut nous correspondre à ce que l'on peut y rechercher. Et donc, ces psaumes, ils ont... Ils existent depuis fort longtemps, hein, effectivement. Et disons, ils ont toujours été dans la liturgie juive. Ils ont été utilisés.
C'est ça, oui.
Dans le temple, parce que Jésus les cite, les apôtres les citent.
Oui.
Ils les connaissent. Oui. Jésus en croix dit, « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Si ce n'est pas lui qui a peur d'être abandonné par Dieu, c'est un psaume qu'il récite. Hein. Donc il se raccroche justement au peuple qui peut se sentir abandonné. Enfin, moi, j'interprète comme ça. Hein.
Oui, oui. Alors, peut-être je le reformulerai en disant que le psaume 22 annonçait que Jésus allait être sur la croix, et qu'il allait être l'objet de la colère de Dieu. Et donc Jésus dit ces paroles qui ont été prononcées à l'avance dans les psaumes. Je ne pense pas que Jésus dise les paroles des psaumes pour que l'écriture soit... soit là, je pense que les psaumes pioche. Ont annoncé.
Il pioche dans, dans cet héritage.
Oui, mais je suis assez d'accord avec ça, mais ça correspond à ce qu'il vit aussi.
Oh, oui, là, hein, voilà. ça colle pleinement.
Oui, ah, oui c'est
effectivement,
ça.
Je suis certain. Oui. Et disons, il y a quand même un petit reproche à faire parce qu'on peut être gêné. Il faut être très attentif. La lecture est parfois difficile. On ne sait plus qui parle. À qui il s'adresse, si c'est à un individu, si c'est tout au peuple, et parfois les pronoms personnels changent au cours du texte. Alors, ça a été mauvaise traduction, c'est voulu, c'est... Comment expliquez-vous ce...
Eh bien, il faudrait voir au cas par cas, mais je pense que c'est... Il n'y a pas de mauvaise traduction, puisque quand un verbe est à la première personne du singulier, alors on traduit par « je », mais quand c'est la première personne du pluriel, on traduit par « nous ». Mais par contre, il y a des psaumes dans lesquels, de toute évidence, il y a des passages du « je » au « nous ». Par exemple, on parlait des fils de Corée, le psaume 44. Alors, je lis, par exemple, « Ô Dieu », au verset premier, « Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères, nous ont raconté l'œuvre que tu as opérée dans leurs jours, au jour d'autrefois, et puis tu as planté nos pères, tu as affligé les peuples, etc. Et puis verset 4, c'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Verset 5, avec toi, nous frapperons nos adversaires. Verset 6, ce n'est pas en mon arc que je me confie et mon épée ne me sauvera pas. Verset 9, mais tu nous as rejetés et rendus honteux. Alors je crois que là, de toute évidence, bon, on ne va pas prendre le temps de faire un commentaire détaillé de ce psaume, mais il y a un va-et-vient entre celui qui parle et ceux qui sont censés aussi parler par l'expression du psaume. C'est-à-dire que le psaume, c'est un cantique qui est pour l'assemblée, qui est pour tous ceux qui sont là.
Oui.
Et de ce fait, il y a individuellement, mettons, le psalmiste, hein, l'auteur, qui est quelqu'un qui va affirmer quelque chose que ne ressentira peut-être pas toute l'assemblée. Quand, par exemple, s'il y avait un envahisseur qui rentrait dans le pays, alors peut-être que toute l'assemblée était confuse, était perdue, était amère, était en colère, mais que le psalmiste disait « Mais tu es mon roi, commande le salut pour Jacob. » Et donc je crois que là, ces passages du « je » au « vous », au « nous », peut se justifier.
Comme c'est des chants, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, un peu comme dans le théâtre grec aussi, si vous voulez, un chef de chœur qui commençait, puis le chœur qui reprenait peut-être la suite, et ils étaient à plusieurs, ils disaient nous.
Absolument.
J'imagine. Hein.
Absolument. D'ailleurs, dans les psaumes 42 et 43, des fils de Corée, il y a un refrain. Et on peut très bien penser que ce refrain soit chanté par le chœur, comme vous le dites.
Voilà.
Alors, il y a une chose de laquelle nous n'avons pas parlé, et pour les psaumes, de manière générale, il faudrait en parler, c'est la numérotation.
Ah oui, ça c'est un peu compliqué sur la Bible.
On aurait pu en parler en introduction.
Oui, on est encore des psaumes. Dans l'introduction.
Voilà. Et donc, il faut savoir que certains psaumes sont comptés par la tradition comme un psaume ou comme deux psaumes. Par exemple, les psaumes 42 et 43 paraissent à l'évidence ne faire qu'un psaume, mais ils ont été comptés comme deux.
Oui.
Parce qu'ils ont le même refrain, « Pourquoi es-tu abattu mon âme? Pourquoi es-tu agité au-dedans de moi ?» Et donc, ils ont été comptés comme deux, mais par contre, il y a des psaumes qui n'ont pas été comptés comme deux, mais comme un dans certaines traductions et pas dans d'autres. Je crois que c'est le psaume autour du psaume 14. Et ce qui fait que dans certaines versions, le psaume 41 est le psaume 40. Hein, voilà, et donc il y a un peu une confusion de numérotation.
Oui, ça ne facilite pas, effectivement.
Et ça facilite pas. Autre ouais, chose qui ne facilite pas non plus la lecture des psaumes, c'est le fait que les Juifs considèrent l'entête comme verset 1. Alors que Voilà. Beaucoup de Bibles traditionnelles ne l'ont pas considéré comme verset 1, mais comme en tête. Ce qui fait que quand on lit le verset 1, souvent, pour d'autres personnes, c'est le verset 2. Et donc, dans l'Église, alors il faut composer avec tout ça.
On passera outre la numérotation un peu compliquée, parce que ça n'enlève pas quand même de la valeur au psaume, mais il y a aussi une autre chose que je voudrais vous faire exprimer, c'est que parfois quand même, pour l'homme de notre siècle, on peut se dire, mais c'est quand même dépassé. Quand on dit l'ennemi rôde autour de toi, il y a le lion qui rugit, disons, les ennemis vont s'abattre, et ainsi de suite. On a toujours l'idée que ça vient de l'extérieur. Mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi un petit travail de recentrage, en se disant que l'ennemi qui campe autour de nous, le lion, le loup, ou je ne sais plus quoi, qui veut nous manger, ne sont pas nos propres faiblesses ou nos propres... nos propres faiblesses. Ça ne désigne pas toujours les autres, quoi. C'est trop facile. Je suis attaqué. Mais on est attaqué par soi-même de l'intérieur, je pense.
Cela nous amène à donner quelques règles de lecture biblique. Il me semble que pour comprendre un texte biblique, il faudrait toujours commencer par en faire une lecture historique. Donc, les lions, les ennemis, les adversaires, les traîtres, ça correspond à une situation historique dans laquelle soit l'auteur raconte une histoire qui s'est passée, soit il raconte un cauchemar, quelque chose qui relève de l'imaginaire. Mais de toute manière, c'est historique. Il faut savoir que en Israël, au temps de David, il y avait des lions.
Ça correspond à l'environnement.
Voilà. De même, dans la même idée, il ne faut pas non plus oublier l'importance du politique dans les psaumes. Et politique, c'est au sens étymologique, c'est ce qui relève à la vie du pays ou de la ville. Polis, en grec, veut dire la ville. Et pas le politique comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est appelé par Dieu à être dans ses frontières, à être sans adversaire et à accomplir la loi de manière générale et à apporter des sacrifices au temple, etc. Il y a donc une dimension nationale, une dimension de représentation de Dieu par la nation, une dimension collective, une dimension de responsabilité collective, une dimension de solidarité dans ces psaumes, qui ne nous touche pas beaucoup, voire pas du tout. Parce qu'en fait, quand on lit les circonstances nationales des psaumes, nous qui sommes français, on n'est pas concerné par la dimension nationale. On est concerné par la dimension de solidarité. Mais pas de solidarité des frontières, par exemple. Si le traité de je ne sais pas trop quoi, de Berlin, de Nice, avait défini que les frontières entre l'Italie et la France seraient déplacées et qu'on perdrait 5 km, nous les Français, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche c'est-à-dire que, mais dans l'Ancien Testament, Dieu a défini des frontières de manière très précise. Et quand les Philistins viennent habiter la bande de Gaza, alors c'est pas normal.
Mais bien sûr.
Et donc, il y a une réalité... très importante, une solidarité nationale et une question de représentativité de Dieu par Israël dans les psaumes qui est importante et dans laquelle nous, pratiquement, nous ne rentrons pas.
On ne rentre pas, bien sûr, mais ça s'explique quand même. Parce que, vous dites vous-même, là, Israël est un petit pays et puis il y a quand même la volonté de Dieu qui en a fait son peuple. Donc, pour eux, c'est important si la frontière bouge ou si quelqu'un vient s'installer chez eux.
Voilà.
Mais bon, on peut se dire, effectivement, ça, on saute. Et alors, moi, je ne suis pas d'accord.
Alors, Je vais juste dire, mais je vous laisse la parole, que j'ai parlé de règles de lecture, et en premier lieu, il y a une interprétation historique, et en deuxième lieu, une interprétation pratique.
Oui, oui, oui.
Bien sûr. Hein. Et donc, après, il faut qu'on parle de cette interprétation pratique, mais je vous laisse la parole.
Mais oui, mais justement, c'est ça. Je veux dire que je pensais qu'il allait y avoir, après, l'appel historique, autre chose.
Et voilà.
Voilà, donc je vous donne la parole.
Très bien, très bien, très bien. Alors, par exemple, quand on lit le psaume 137, où il y a un chant des esclaves à Babylone, hein, et vous savez, ce chant de Verdi, hein, des esclaves de Babylone, hein, donc je lis auprès des fleuves de Babylone, là, nous nous sommes assis, nous avons pleuré, quand nous nous sommes souvenus de Sion. Donc, oui. Historiquement, on sait que Juda, c'est-à-dire le royaume du sud, capitale Jérusalem, alors que le royaume du nord, c'était les 10 tribus, capitale Samarie. Et le royaume du nord a été transporté par Shalmaneser, roi d'Assyrie, en 721 avant Jésus-Christ, alors que Nebuchadnezzar transporte Jérusalem, et donc c'est les deux tribus, Juda et Benjamin, avec les Lévites, à Babylone, entre 606 et 588. Et il y a trois transportations, et donc ces gens-là sont à Babylone. Donc on sait que ce psaume est composé, on peut dire, du temps de ces transportés. Les transportés étant revenus en Israël, hein, c'est le livre d'Esdras et de Néhémie qui en parle, 70 ans plus tard, c'est-à-dire en 536. Et donc, ce psaume-là a pu être composé donc à ce moment-là, hein, certainement. Et on pourrait dire que historiquement, on entend ces gens qui disent, verset 4, « Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger ?» Voilà. On entend aussi des imprécations, verset 9, « Bienheureux, qui saisira tes petits-enfants et les écrasera contre le roc ?» C'est affreux de dire une chose pareille.
Oui, ce n'est pas toujours facile.
Mais on comprend que ces gens qui sont des esclaves, finalement, qui sont des transportés, qui sont maudits, on comprend qu'ils se laissent aller à des imprécations. Et donc, je dirais que nous, par exemple, si jamais on était aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'en Mauritanie, l'esclavage est quelque chose qui existe. Mmh. Et donc, quelqu'un qui est esclave en Mauritanie et qui lit ce psaume peut tout à fait ressentir des choses et s'identifier à ces gens qui s'adressent à Dieu avec un désir de justice. Voilà une application pratique. Alors maintenant, quelle est l'application pratique pour vous, Pierre, et pour moi? Moi, je dirais que nous comprenons que, quelque part, Dieu permet qu'on soit emmené captif. Que quelque part,
Dieu... captif de nos propres pensées.
Et voilà, captif de nos propres pensées, des pensées des autres, captif d'un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire, captif d'une église, d'une paroisse, d'éléments moteurs qui font des mauvaises choses, et qu'avec tout ça,
De mauvaises habitudes.
Énormément de réactions à discerner chez nous, à comprendre, hein, entendre ces gens-là, finalement dire « je ne peux pas chanter ». Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Et dire, mais voilà, avec ce psaume, j'ai envie de chanter que je ne peux pas chanter.
Oui, oui.
Et là, quelque chose se passe.
Ma situation, effectivement, ne me permet pas de le faire, oui. Alors moi, j'irais presque un peu plus loin. C'est que parfois, quand je lis ces psaumes, je me dis, mais c'est tout simplement les wagons pour les camps de concentration qui ont amené ce peuple juif. Et qui devait s'être adapté, ça correspond à leur situation, des siècles et des siècles après. Historiquement, donc, vous voyez, je peux le recaser, effectivement. C'est quand même assez surprenant. Alors, il y a autre chose aussi, parfois, qui m'amuse un peu, mais peut-être que ça ne vous amusera pas, c'est souvent, un hébreu qui se lamente, mais Seigneur, je suis malheureux, viens à mon secours, et il insiste, et puis, petit à petit, on a l'impression qu'il fait du chantage. Il dit, mais si je meurs, si je deviens poussière, qui c'est qui un jour tu pourras chanter ta gloire et ainsi de suite? Et ça m'a toujours surpris et un peu amusé. J'ai quand même,
Il est un peu gonflé, là. Hein. Il ne veut pas me répondre, eh bien, je le mets devant le fait accompli. S'il ne me sort pas de cette situation, eh bien, il perd un allié. Hein. Et ça m'amuse, ce rapport à Dieu. Et d'un autre côté, je me dis, c'est une relation humaine, père à fils, enfin, qui se comprend, quoi. Et que je comprends.
Je pense que Dieu est honoré que des gens s'adresse à lui et lui exprime quelque chose. La colère adressée à Dieu, c'est un lieu de relation.
Une relation comme une autre.
Une relation comme une autre. Et donc, dire à Dieu « je suis en colère », je crois que c'est normal. C'est plus que normal. Ça devrait être quelque chose même d'habituel. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on fait de notre colère. Si notre colère nous amène à casser tout ce qui est autour de nous, et donc là, c'est pas bon. Mais par contre, que notre colère nous pousse à nous exprimer à Dieu et à construire quelque chose avec lui, d'une part, comme vous le montrez avec ce geste, en se libérant de ce qui est en nous, mais d'autre part, en construisant avec lui quelque chose, parce qu'il va nous répondre, il va nous faire comprendre quelque chose.
On le met dans l'obligation. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est quand même le grand intérêt des psaumes. Les psaumes de colère sont assez nombreux. Et par exemple, un psaume très étonnant d'Aimant, le psaume 89, est un psaume de colère entier, où il commence par dire « Éternel Dieu de mon salut », alors bon, il dit quand même que c'est le Dieu de mon salut, hein, « mais j'ai crié de jour et de nuit devant toi ». Et il commence à décrire tout ce qui ne va pas, et il finit en disant « Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, ceux de ma connaissance me sont des ténèbres. » Et là, il n'y a pas de solution dans ce psaume. C'est uniquement un psaume de colère. C'est uniquement l'expression de ce qui ne va pas. Alors que souvent dans les psaumes, ça commence par dire ce qui ne va pas et ça finit en disant « mais finalement, je vais mieux
». Et là, j'en ai repéré un justement qui correspond effectivement à ce que nous venons de dire. Fais-tu des miracles pour les morts ?
Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça, c'est celui-là, oui. Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer ? Oui, je l'avais bien mis en évidence parce que ça m'a toujours frappé. Mais bon, on peut le comprendre. Alors, il y a autre chose aussi d'intéressant, c'est que, bon, on voit l'histoire du peuple qui est déporté, envahi, puis on a un roi qui sauve, et on espère toujours à la gloire de Dieu, bien entendu, mais la nature est très, très, très présente. Alors, ça va du pâturage où les brebis vont se reposer, du cerf qui peut aller boire, des oiseaux qui vont s'abriter dans les arbres, les cèdres du Liban, enfin, c'est très important, les éléments naturels, et l'eau joue un rôle évidemment essentiel. Alors on a soif, la terre est aride, c'est sec, et finalement on a besoin d'eau. Mais souvent l'eau aussi a quelque chose de dramatique. Il faut franchir des torrents, il faut se méfier des ravins, et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, moi, personnellement, j'interprète, je n'ai pas peur d'un ravin, même plein d'eau. Bon, je vois autrement, je vois autre chose, quelque chose qui peut m'envahir. Pour en parler tout à l'heure, ça peut être la colère et le considérer comme un torrent. Et ce n'est pas bon qu'un torrent de colère puisse m'envahir. Mais c'est quand même toujours très imagé au point de vue, disons, de la nature.
Et sur ces images, on peut, encore une fois, faire une lecture historique et une lecture allégorique. La lecture historique, je pense, nous place en Israël un pays qui a besoin d'eau, justement, et pour qui la sécheresse est catastrophique. Un pays qui craint, en quelque sorte, la surabondance ou l'absence d'eau. Et un pays par lequel la majesté de Dieu va se montrer dans le fait qu'il y ait de l'eau, mais ni trop ni trop peu. En lecture allégorique, alors l'eau, c'est ce qui rafraîchit, c'est ce qui désaltère, c'est ce qui lave, et donc on peut faire des lectures allégoriques à l'infini, et en fonction de, finalement, de chaque psaume, selon sa manière.
Alors, il ne faut peut-être pas oublier une chose essentielle, c'est quand même que, quel que soit l'auteur connu ou pas connu des psaumes, il y a quand même toujours, ça a été écrit sous l'effet de l'Esprit Saint qui a guidé l'auteur.
Oui, oui, il y a un, c'est pas dans les psaumes, mais un texte biblique qui est très intéressant à cet égard. C'est le chapitre 36 de Jérémie. Et dans ce chapitre, Jérémie est en prison et il appelle Baruch, qui est son secrétaire, et on voit dans ce chapitre 36 comment, au verset 4, Jérémie appelle Baruch, et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livre toutes les paroles de l'Éternel qu'il lui dit. Donc on comprend que Dieu donne des paroles à Jérémie, que Jérémie les dit à Baruch, peut-être que Jérémie ne savait pas écrire, c'est possible.
Peut-être, oui.
Et c'est Baruch qui va les écrire.
C'est son secrétaire, Baruch.
Son secrétaire, voilà. Et donc, voilà, je crois qu'il y a une dimension transcendantale, hein, on va dire surnaturelle ou surhumaine de la parole de Dieu, mais qui s'exprime quand même dans la bouche de quelqu'un chez qui, je pense, Dieu respecte l'humanité. C'est-à-dire que ce que Jérémie a écrit, c'était un peu ce que Jérémie ressentait. Oui. Ce que David écrit, c'est ce que David ressent, etc.
Bien sûr.
Oui. Hein, voilà. Alors, on peut aussi se souvenir, alors on n'a pas tellement donné de date pour les écritures des psaumes, Moïse pourrait avoir vécu au XVe siècle avant Jésus-Christ, hein, l'Exode ayant eu lieu vers 1450. Donc ensuite, on a parlé de ces psaumes, du psaume 137, qui est écrit avant le retour de transportation des fils d'Israël de Babylone, donc avant 536.
Oui.
Donc ça, 536 avant Jésus-Christ, donc 15, mettons 1450 et 550, hein, ça fait une période donc de 900 ans dans lequel des psaumes ont été écrits, mais il semble clair que la plupart des psaumes ont été constitués, composé et constitué et recueilli par David avec la volonté de faire un psautier, quelque chose qui serve à l'assemblée. Donc David a été roi, mettons, aux alentours de l'an 1000, hein, Salomon 40 ans après. Alors, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a différents styles dans les psaumes. Par exemple, il y a des psaumes imprécatoires, où, comme on l'a lu dans le psaume 137, où il y a une colère qui se manifeste de manière terrible, ou bien d'autres psaumes, le psaume des batailles, qui va dire, je ne sais pas si c'est le 68 ou le 93, peu importe, qui va dire, le 68, hein, qui dit que Dieu se lève seulement et ses ennemis soient dispersés. Et donc on a un psaume guerrier, un psaume terrible.
On s'y voit, c'est un cinémascope. Un cinémascope, hein.
C'est ça, oui, oui. Alors, il y a un autre type de psaume qui est le psaume alphabétique, ou qu'on appelle aussi acrostiche.
Oui.
Alors, il y a quelque chose dans la poésie hébraïque qui est de faire commencer chaque verset par une lettre de l'alphabet. Et il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, oui, seulement, hein, 22, nous on en a 26. Et donc, la première lettre premier verset commence par le Aleph, le deuxième par le Bet, etc. Et donc, il y a quelque chose de poétique, de sensible, d'étonnant. Une recherche un peu stylistique.
Oui.
Voilà. Et c'est ce qui fait, par exemple, que les psaumes 9 et 10 sont des psaumes alphabétiques. Alors, le psaume 9, il a 20 versets, le psaume 10, il a 18 versets, mais il y a un découpage en versets, et ces deux psaumes sont des psaumes qui ont été réunis en un seul. Tout à l'heure, je disais, autour du psaume 14, Hein, c'est le psaume 9 et 10. Et je crois que dans cette dimension acrostiche, il y a une volonté peut-être vraiment de systématiser de la même manière qu'il y a 22 lettres et donc qui sont montrées dans ces 18 versets. Alors il y a une volonté de progression, de systématisation, de montrer dans 18 versets 18 choses différentes. Mmh. Et c'est à nous d'entendre tout ça. Hein, et par exemple, le psaume 10, moi je l'ai intitulé « Le méchant agit ». Et dans ce psaume-là, alors il y a différentes choses. Hein, le méchant, par exemple, verset 2, « Dans son orgueil ». Verset 3, « Dans le désir de son âme ». Verset 4, « Dans la fierté de sa face ». Verset 5, « Dans ses chemins ». Verset 6, « Dans son cœur ». Verset 7, « Dans sa bouche ». Verset 8, « Aux embuscades des villes », etc. Et donc, peut-être que la dimension acrostiche alphabétique est là pour, comme ces tableaux pointillistes,
oui, vous savez.
Hein, pour montrer quelque chose de vraiment très, très spécifique, où finalement on ressort de ça avec un tableau général, il n'y a peut-être pas de fil conducteur, mais c'est un ensemble de choses qui nous sont dites, et pour ça, la poésie acrostiche est très utile.
Et oui, et puis ça a un certain poids, bien sûr. Et disons, donc ce livre des psaumes, bien entendu, a souvent quand même à peu près le même plan. On commence toujours par un appel. Je suis malheureux, viens à mon secours, libère-moi. Et puis, il y a la confiance qui s'exprime. Mais tu vas faire quelque chose pour moi, tu ne vas pas m'abandonner. Et puis, il y a parfois une reconnaissance aussi un peu de ses faiblesses. Et puis, insensiblement, comme ça, eh bien, on prie, on insiste, je te demande, le jour, la nuit, je me lève, j'irai offrir des sacrifices, on fait même des promesses. Et puis, on lui demande, disons, qui reste avec nous, qui nous accompagne, qui nous guide. Et puis, disons, après, avant la fin, il se passe quelque chose. Parfois, ce n'est pas exprimé, mais on rend grâce. Donc, comme si l'individu, celui qui priait, avait reçu quelque chose. Et là, alors qu'il insistait, tous ses états d'âme étaient décrits, d'un seul coup, il rend grâce. Donc, on suppose qu'il s'est passé quelque chose entre Dieu et lui. Et je trouve que c'est très beau aussi.
Vous êtes en train de décrire pour moi l'immense vertu de la prière.
Oui.
C'est-à-dire que dans la prière, quand on se met dans un temps de prière, on va commencer à dire au Seigneur, voilà, dans ma vie, il se passe ça. Peut-être qu'on va commencer par lui dire, écoute, je ne sais pas trop que te dire, en fait. Hein. Et puis, bon, c'est vrai que je suis en colère, c'est vrai que je suis inquiet, c'est vrai que je suis triste. Et on va commencer dans la prière méditative à poser toutes ces choses devant lui. Et toutes ces choses vont prendre un relief particulier. Mais pour qu'elles prennent un relief particulier, il faut vraiment qu'on ait cette honnêteté et ce travail de regarder les choses les unes après les autres. Alors, on pourrait citer, par exemple... Absolument. Hein, l'humilité, c'est de dire, par exemple, par rapport à telle personne, je n'y suis pas arrivé, je suis en échec relationnel, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas, je n'y arriverai jamais, etc. Et on rentre dans toute cette dynamique de vérité devant le Seigneur, et qui nous amène petit à petit à évoluer, comme vous le soulignez, à comprendre que on comprend, mais on ne se dit pas qu'on comprend. Mais notre prière évolue. Et dans notre prière, on va dire petit à petit, « Ah oui, il faut que je pense à ça. » Ou bien on va dire, « Je commence à mieux comprendre l'autre. » Et puis petit à petit, on va prendre conscience de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans ces relations qu'on pourrait considérer comme dévoyées, comme ratées, comme dans lesquelles on a une responsabilité, un échec. Et puis on va se dire, ben non, finalement, parce que j'ai appris quelque chose grâce à cette personne. Non, finalement, je comprends quand même que Dieu reste souverain,
bien sûr.
Hein, dans les circonstances difficiles, hein. Mais il me fait comprendre que j'ai à continuer, que tout ce que je fais, n'est pas dépourvu de sens, au contraire, il y a quelque chose dans lequel il veut me faire rentrer, et ne serait-ce qu'une meilleure connaissance de lui, une meilleure connaissance de l'autre, une meilleure connaissance du roi, une meilleure connaissance des autorités, une meilleure connaissance du sexe opposé, une meilleure connaissance du chant de l'Église, une meilleure connaissance, en fait, de tout ce qui peut se passer dans les nations et qui fait dans les nations environnantes pour Israël, mais finalement dans le voisinage, dans la vie sociale, dans la vie du quartier et dans mon rapport finalement avec les simples voisins.
À titre personnel, je vous disais, je vous avais la confidence que j'aimais beaucoup les psaumes, mais en fait, ils font partie quand même de la liturgie. Alors, liturgie catholique, ils sont effectivement inclus, et disons dans les plus dans l'office ou la liturgie des heures, c'est-à-dire les plus. Dans les couvents, et il y a plusieurs offices, les laudes, les vêpres, les nonnes, ainsi de suite. Et chaque fois, il y a des psaumes qui sont bien retenus et attribués à tel office, et en fonction aussi de la période de l'année. Je suppose que dans les églises protestantes, c'est la même chose. On utilise beaucoup les psaumes, peut-être même plus que chez les catholiques, ou tout au moins une tradition plus lointaine. Les juifs, je vous pose la question. S'ils sont toujours utilisés dans les synagogues, les psaumes.
Alors oui, absolument. Chez les protestants, je voudrais préciser que l'utilisation du psautier s'est faite au début du protestantisme, c'est-à-dire au XVIe siècle, et notamment avec Théodore de Bèze, qui a réécrit les psaumes avec ce qu'on appelle une prosodie, je crois, hein, c'est-à-dire en fait d'utiliser les mots dans une lecture mélodique de la phrase pour que les mots aient leur place. Vous savez, on va commencer au deuxième temps quand on veut que le temps fort soit sur tel mot et pas sur tel autre.
Ah oui.
Quand on dit notre Dieu, notre Père, le temps fort, il est sur Père, par exemple.
Oui.
Et donc, dans la prosodie, on va arranger le sens de la phrase avec l'harmonie et avec la mesure. Voilà. Et donc, Théodore de Bèze a fait ce travail et le psautier protestant a été donc écrit par Théodore de Bèze avec énormément d'harmonisations qui ont été faites par Claude Woudimel, qui était également dans le protestantisme à la Renaissance. Alors, et par la suite, ce psautier a été réécrit, bien sûr, parce que le français a évolué, et par exemple, Clément Marot, est quelqu'un qui est connu également.
Oui, un poète de la Renaissance, oui.
Voilà, dans le psautier, et également César Malan, qui lui vient beaucoup plus tard, dans ce qu'on a appelé les mouvements de réveil dans le protestantisme au début du XIXe siècle.
Oui, c'est plus récent. Voilà. Donc, les psaumes restent toujours d'actualité dans les différentes confessions.
Absolument.
Oui, oui.
Alors, ce qu'on pourrait dire dans la liturgie, c'est que le psaume ne parle du Christ qu'en nombre. C'est-à-dire que si, vous voyez, je mets ma main qui est entre la table et le plafond, et c'est au plafond qu'il y a des néons. Et en fait, ici, on voit l'ombre de ma main, mais on ne voit pas ma main. Et donc, quand on dit que, dans la Bible, par exemple, on dit que la loi montrait l'ombre des choses à venir, ça montre que nous voyons l'ombre des choses à venir,
mais
nous ne voyons pas les choses à venir.
Oui.
Et donc, je crois que il y a des psaumes qu'on appelle psaumes messianiques et qui montrent l'ombre des choses à venir. Mais nous avons dans le Nouveau Testament les choses à venir,
et oui,
qui sont pour nous des choses passées, puisque Christ est venu.
Nous, on a un petit dévoilement.
C'est ça. Et donc, ces psaumes messianiques, on va en voir un ou deux. Hein, par exemple, regardons, on a cité tout à l'heure le psaume 22, hein, qui est un psaume messianique, qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hein, on connaît ce psaume. Mais par exemple, on peut aussi voir le psaume 40, hein, où nous lisons dans le psaume 40 quelque chose de difficile. « J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est penché vers moi. » Il a entendu mon cri. Donc on voit quelqu'un qui souffre et qui est en train de sortir de sa difficulté.
Oui.
Donc c'est comme si le psaume 22, c'était pendant la souffrance, le psaume 40, c'est à la fin de la souffrance du serviteur. Si on regarde le psaume 69, autre psaume messianique, on va voir, par exemple, un psaume qui dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans une boue profonde. » On voit quelqu'un qui vient d'entrer dans la souffrance. Mmh. Hein, donc on a l'impression que les souffrances du Christ dans les psaumes sont décrites de manière assez précise, avec le 69 qui peut parler de la souffrance qui commence, oui. Le 22 où c'est au paroxysme de la souffrance, le 40 où la souffrance est passée, le 102 par exemple, autre psaume messianique, hein, il y en a, mettons, plus d'une dizaine, hein, de psaumes messianiques. On voit dans le 102, par exemple, au verset 23, « Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours, j'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. » Et donc là, on entend le Christ qui est, mettons, à 33 ans, a été enlevé à la moitié de ses jours.
Oui.
Hein, voilà. Dans le 110, on voit une autre chose qui est très importante que dans le psaume messianique, c'est que on voit ce moment où le Christ va être élevé à la droite de Dieu. Hein, psaume 110, verset 1er, qui est d'ailleurs repris dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 1er. L'Éternel a dit à mon Seigneur, donc au Messie, hein, il a dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. »
Donc, j'allais dire, c'est très clair.
C'est très clair, c'est-à-dire pour nous pour qui nous venons après,
oui, oui.
On comprend que l'œuvre de Christ étant accomplie, il a été couronné, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, de gloire et d'honneur pour son œuvre accomplie, mais il n'est pas encore couronné comme roi sur Israël. Mm. Et donc, l'Éternel a dit au Christ, « Assieds-toi à ma droite », donc c'est l'ascension, hein, il est allé à la droite de Dieu, « mais jusqu'à ce que je mette tes ennemis, pour le marchepied de tes pieds. » Donc Dieu va organiser les nations pour que les nations puissent être le marchepied des pieds du Christ.
Oui,
et Christ va revenir régner. Et donc, on voit dans ce psaume, au verset 4, l'Éternel a juré, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Chose qui est reprise au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux.
Dans les Hébreux,
oui. Donc, c'est très intéressant de voir que, déjà dans ces psaumes messianiques, l'annonce de Christ qui viendrait comme pleine et parfaite sacrificature de cet homme qui a été assimilé au Fils de Dieu, mm-hmm. et qu'on voit en Genèse 14, hein, cet homme qui tout à coup est venu devant Abraham, mm-hmm. qui était revenu de la victoire des rois de Sodome et de Gomorre, etc., avec les rois de Sodome, sur un roi qui voulait être intrusif, eh bien Melchisédek était sacrificateur du Dieu Très-Haut, il est venu avec du pain et du vin. Mm-hmm. Et donc, intéressant de voir comme l'Épître aux Hébreux nous dit que cet homme était assimilé au Fils de Dieu, mais que ce psaume montre qu'il y a une sacrificature qui est de l'ordre de Melchisédek pour dire que la sacrificature d'Aaron ne serait pas une sacrificature perpétuelle.
Oui.
Donc, intéressant de voir l'importance du Fils de Dieu qui devait, en venant en Israël, amener un ordre nouveau. Et c'est ce qu'il fera quand il viendra régner.
Oui.
Donc, on voit dans tous ces psaumes messianiques qu'il donne l'ombre de quelque chose qui viendra après.
Oui, oui.
Alors, le psaume 22 montre qu'il est mort pour nos fautes. Hein, le psaume 22 parle de cette semence qui le servira. Et on peut lire le psaume 22 avec cette connaissance que nous avons de l'œuvre de Christ aujourd'hui. Mais c'est sûr que ceux qui le lisaient à l'époque n'en avaient pas idée. Et les Juifs qui refusent aujourd'hui l'œuvre de Christ
ne peuvent pas
non plus avoir cette lecture.
Oui, oui, oui. Et donc, on remarque aussi qu'il y a différentes appellations de Dieu. C'est pas toujours Dieu, c'est pas toujours l'Éternel, c'est pas toujours Yahvé, ça change.
Oui,
et
oui.
Voilà,
qu'est-ce qu'il faut en dire ? Eh bien, d'abord, Dieu s'appelle en hébreu Yahvé. Mm-hmm. Et Yahvé, c'est son nom. Je vais y revenir sur sa signification, mais Dieu est quelquefois appelé Elohim, ou Eloah, ou El. Et Eloah et El, ce sont des formes courtes de Elohim. Mmh. Pourquoi des formes courtes? Alors ça, c'est grammatical ou syntaxique. C'est parce qu'en fait, et nous, on n'a pas ça en français, quand les noms sont associés, on les diminue en longueur pour que ce ne soit pas trop pénible à prononcer.
Ah bon?
En fait. Hein, quand il y a une construction de noms,
oui.
Alors ces noms se raccourcissent. Et par exemple, Sédécias, le roi Sédécias, s'appelle Tzedeki Yahou.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc, le mot de la fin, Yahou, Tzedeki Yahou, Yahou veut dire Yahou, Yahvé et ma justice. Et donc, il y a des diminutifs où on ne va retenir que le Tzedeki, par exemple. Hein. Et donc, on va faire tomber la deuxième partie du mot. Pour Elohim, c'est exactement pareil. Et donc, ce qui fait que dans certaines traductions, qui sont plus ou moins littérales, on va avoir quelquefois Elohim et quelquefois Eloa ou El, même manifesté en français, rendu en français. Alors, qu'est-ce que veut dire Elohim et qu'est-ce que veut dire Yahvé? Alors, Elohim, ça veut dire puissant. Et Yahvé, c'est le nom. Par exemple, si je disais « J'aime bien Pierre, mon professeur », Pierre, c'est le nom de mon professeur, et professeur, c'est la fonction de Pierre. Et quand il est dit « Tu n'invoqueras pas le nom de Yahvé ou de l'Éternel, ton Dieu, en vain », alors l'Éternel ou Yahvé, c'est le nom de Dieu, mais Dieu, c'est la fonction de Yahvé.
Bien sûr.
Et les idoles, par exemple, sont appelées Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'elles ont une puissance.
Les autres dieux.
Mais Dieu, il est le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Alors voilà pourquoi il y a des noms différents.
Des noms différents en fonction de la circonstance et de ce que l'on veut dire. Oui. Alors en fait, bon, je pense qu'on doit s'approcher de la fin. Et il faut retenir en fait que bon, ces psaumes permettent d'être en relation avec Dieu et que Dieu est en relation avec son peuple.
Voilà. Je dirais que j'insiste un petit peu sur les deux aspects de la lecture de la Bible et des psaumes en particulier, mais aussi des évangiles, par exemple. D'abord une lecture historique, et ensuite une lecture pratique pour nous. Mais il faut commencer par la lecture historique, parce que quand on fait la lecture historique, et qu'on comprend ce qui s'est passé, alors on peut mieux se faire des applications pratiques pour nous.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'événement historique qui permet de comprendre dans quelle situation le peuple est, effectivement, et donc nous, on peut avoir, se rapprocher de cette situation-là.
Voilà.
C'est ça.
Voilà. Psaume 22, par exemple. Si on commence par dire, je lis, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement, mon Dieu, je crie de jour et tu ne réponds pas. » Alors si je lis ça, je vais dire, « bon, mais Dieu ne répond pas, donc ce n'est pas la peine que je lui parle. »
Oui.
Hein, quelque part. Et donc, je vais... moi, comprendre qu'ici, il y a quand même quelqu'un à qui Dieu n'a pas répondu. Parce que Dieu réglait en Jésus-Christ la question du salut, la question des péchés, la question de la justice. Et donc, je fais une lecture historique. Et après, je me dis, voilà, quelle lecture pratique puis-je faire? Mais d'abord que Jésus-Christ a souffert pour moi et que quand je le verrai, ça sera quand même extraordinaire de penser que quelqu'un a souffert pour moi. Hein, voilà. Ensuite, ça me motive dans mes affections pour lui, dans mon engagement pour lui, dans mon engagement personnel, dans ma rectitude personnelle également. Ça me motive dans le fait de dire, voilà, mais à moi, Dieu me répond. Et à moi, Dieu ne fera jamais ce qu'il a fait à Jésus-Christ. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui viennent en lecture pratique, et je crois qu'en conclusion, on peut vraiment dire que tous ces psaumes sont à lire, que dans ces psaumes, il y a quantité de choses extrêmement pratiques, mais peut-être spécialement dans la collectivité. Et nous, ça nous parle du pays, de l'Église, de la famille, alors que par exemple, le cri de l'individu ressort beaucoup plus dans le livre de Job.
Oui.
Et nous, on a à entendre ce cri de la collectivité avec ces gens qui nous amènent à chanter, à prier et à dire des choses qui ont toute leur importance devant Dieu. Donc, bien sûr, comme le reste de la parole de Dieu, lisons les psaumes.